Ça va? Vous avez le temps? Moi aussi, hein? Voilà, hein? Alors, ne regardez pas la montre à partir de midi moins le quart en me disant, oh là là, il y a le rôti dans le four, il va être carbonisé. Non, non, tout ira bien. Nous restons en place. Amen. Voilà, et même si, eh bien, on a des invités, ils attendront quelques instants. Que le culte soit fini et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia! C'est le Seigneur qui doit être honoré, non? Et quand même, le dimanche matin, on doit prendre le temps de donner du temps au temps pour le Seigneur. Vous êtes d'accord? Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord. C'est bien. Alors, on lit dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, au verset 26. Voici ce qu'il est dit. Marc, chapitre 14, verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze. Et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyées par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le et amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il l'embrassa. Alors ces gens mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur et il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Nous allons maintenant au verset 66, toujours du chapitre 14. Pendant que Jésus était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre, qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq chante deux fois, « Tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. On va maintenant dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 22 et au verset 34. Évangile de Luc, le chapitre 22 et le verset 34. Verset 31. Luc, chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Et puis enfin, nous allons dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, et au verset 1er, Évangile de Jean, chapitre 21, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre et Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Lui dire, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein des poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y ait eu tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, le randonna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montra à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Amen. Voilà, à la lumière de ces textes que nous avons lus et que je vous invite à relire lorsque vous serez dans vos demeures respectives, nous examinerons la chute spirituelle, mais aussi le relèvement de celui qui deviendra l'apôtre Pierre. À propos de chute spirituelle, on peut dire que on ne chute pas parce qu'on pêche, mais on pêche parce qu'on a déjà chuté intérieurement. Comprenez-vous ce que je veux vous dire? Ça veut dire que lorsque le péché apparaît au grand jour, il s'est déjà produit intérieurement quelque chose dans notre cœur qui a amené les choses à ce point-là. Alors plusieurs éléments ont précédé et amené le triple et triste reniement de l'apôtre Pierre à l'égard du Seigneur Jésus. D'abord sa suffisance, son orgueil, sa présomption, ses prétentions. Vous savez, la parole de Dieu dit avec vérité que l'orgueil précède la chute, tandis que l'humilité précède la gloire. Et lorsque Jésus les a avertis, les douze, en disant, voilà, d'ici peu, eh bien, vous allez tous me disperser, m'abandonner aux mains de mes ennemis, de mes adversaires, vous serez tous scandalisés. Et Pierre a pris la parole avec l'énergie qu'on lui connaît et dira, mais quand tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il se croit supérieur. C'est vrai que c'était un homme qui avait des qualités hors du commun, sur le plan humain, sur le plan naturel, mais aussi sur le plan spirituel. Et voyez, lorsque nous sommes avantagés du côté des dons que nous avons pu recevoir, que ce soit des dons naturels ou des talents spirituels, nous pourrions, à l'exemple, hélas, à l'image de l'apôtre Pierre, nous enorgueillir. Mais la parole de Dieu nous met en garde en nous disant, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons de bon, si tant est qu'il y ait quelque chose de bon en nous, nous le devons au Seigneur. Et cela doit nous tenir dans l'humilité. Cette vanité va l'amener à ne pas tenir compte et même à remettre en question l'avertissement prophétique de Jésus. Vous vous rendez compte, tout de même, c'est Jésus qui lui dit, « Pierre, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et Pierre a l'audace, l'outrecuidance de dire, « Non, Seigneur, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Il me semble, que si le Seigneur m'avait lancé un tel avertissement, j'aurais dû tomber à genoux, à ses pieds, en disant, « Seigneur, que pareille chose n'arrive pas. » Mais l'apôtre Pierre est sûr de lui, il est sûr de son fait, et en fait, eh bien, il ne connaît pas sa propre faiblesse. Vous savez, j'ai remarqué ceci, et vous l'avez peut-être vous-même noté, que quelqu'un qui se laisse emporter par l'orgueil, devient inaccessible aux conseils, aux avertissements et aux exhortations les plus solennelles. Quelqu'un qui se laisse emporter par l'orgueil éprouve une espèce de fausse sécurité. Il y a une vraie sécurité que nous pouvons connaître, qui doit être bien fondée. Et cette sécurité bien fondée, nous la trouvons non pas en nous, mais en lui. Jésus a dit, « Nul ne vous ravira de ma main. » Ailleurs, n'est-ce pas, dans l'épître de Jude, au chapitre 24, il est dit que le Seigneur peut nous préserver, alléluia, de toute chute, pour que nous comparaissions devant lui, saints, irrépréhensibles et dans l'allégresse. Mais s'il n'y a pas la grâce, s'il n'y a pas la protection, s'il n'y a pas le secours de Dieu au moment opportun, alors malheur à nous. C'est pourquoi nous devrions nous inspirer de ce que nous trouvons là dans la parole de Dieu et ne pas faire comme Pierre, qui était présomptueux. Vous savez, l'orgueil, je crois que c'est le propre de la nature humaine. Et chaque fois que nous en trouvons en nous-mêmes, eh bien, comment dire, quelques manifestations intérieures, il faut venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, par ta grâce, que ce sentiment de suffisance peut-être qui m'habite, ces prétentions que j'ai quant à moi-même, que tout cela soit mis sur la croix et que toi et toi seul, tu sois glorifié dans ma vie et que moi je reste toujours, en ce qui me concerne, petit, mais tout petit à mes propres yeux. Ce sera là notre sécurité. Un deuxième élément qui a amené la dégringolade de l'apôtre Pierre, c'est que apparemment il était très zélé, voyez. Lorsqu'on vient arrêter le Seigneur dans le jardin de Gethsémané, il le défend. Eh oui, il le défend les armes à la main. Il tire son épée de par-dessous ses habits et il tranche l'oreille d'un des serviteurs du souverain sacrificateur. Je crois que ce n'était pas l'oreille qu'il devait trancher, qu'en pensez-vous? Je crois qu'il voulait lui couper la tête, au bonhomme. Hein? Mais comme il était maladroit, que voulez-vous, il n'était pas soldat de métier, il était marin-pêcheur. Alors, il ne savait pas trop se servir de cet outil, de cette épée, plutôt que de lui trancher la tête. Heureusement, il n'a que tranché l'oreille. Hein? Alors il aurait pu se targuer en disant, mais voyez, je suis vraiment dans le coup parce que moi, je défends le Seigneur, je défends le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de défenseurs, il a besoin de témoins, ce n'est pas la même chose. Il sait se défendre tout seul. Jésus n'a pas apprécié ce geste d'ailleurs. Vous savez, la violence, elle n'est jamais agréable à Dieu, qu'elle soit physique évidemment, mais aussi verbale. L'Écriture dit quelque part dans l'épître de Jacques, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le constat est le suivant, qu'on peut faire souvent. Quand quelqu'un est extrêmement critique avec les autres, quand quelqu'un devient verbalement agressif, quand quelqu'un est prompt à la médisance, eh bien alors il est sur un mauvais chemin. Et j'ai remarqué ceci, que ces gens-là, extrêmement critiques avec les autres, verbalement agressifs ou prompts à médire, sont souvent eux-mêmes, eh bien, sur le point de commettre des choses irréparables. Il ne s'agit pas d'être laxiste. Il ne s'agit pas de dire, mais dans l'Église, tout est beau, tout est bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, il est parfois nécessaire d'appliquer la discipline. Mais le but de la discipline, qui doit être parfois appliquée dans l'Église, n'est pas de condamner, n'est pas de rejeter, n'est pas de perdre, mais de sauver. Rappelez-vous, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, s'il prend en compte ta mise en garde, ton appel à se ressaisir, tu as gagné ton frère. Voilà le but de la discipline. Non pas rejeter, non pas condamner, mais gagner les cœurs à la cause de Christ. Et puis, pour en revenir à Pierre, il y a aussi un troisième élément, le manque de vigilance et de prière. Jésus est dans une phase particulièrement, comment dire, difficile de son parcours, n'est-ce pas? L'Écriture dit quand même, c'est bouleversant. Il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses, de la frayeur et des angoisses. Et il dira même à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » C'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui l'impressionne à ce point? La mort sur la croix? La souffrance physique? Je ne pense pas que ce soit l'élément qui impressionnait le plus le Seigneur. Il avait certainement suffisamment de courage en tant qu'homme pour affronter la douleur physique. Mais ce qui remplissait son âme d'angoisse, c'est qu'il savait que lui, le Fils de Dieu, qui n'avait jamais péché, qu'il devait se charger maintenant du péché de l'humanité et subir à notre place la colère de Dieu. Être l'objet du courroux divin afin que nous soyons l'objet de sa miséricorde. Et ce fardeau de péché de l'humanité tout entière, ce fardeau de condamnation qui allait reposer sur lui, cela le remplissait d'angoisse. Alors, il se retire là. Et il se jette à genoux, et il combat dans la prière, et il supplie son Père de lui venir en aide. Il a pris soin de s'entourer de ses plus fidèles disciples, justement Pierre, Jacques et Jean, son frère. Mais que font-ils pendant que Jésus prie? Pendant que Jésus agonise même dans la prière, l'Écriture dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Eh bien, ils dorment. Alors le Seigneur va vers eux, il les trouve endormis, et il leur lance cet avertissement, mais vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé. Je suis sûr que ce matin, au milieu de nous, il y a des gens bien disposés. Votre cœur vous porte vers les choses du Seigneur. Mais ça ne suffit pas, mes amis. ça ne suffit pas. On dit, certainement à tort, que l'enfer est pavé de bonnes intentions, voyez. Mais ce ne sont pas les bonnes intentions que nous sommes. Ce ne sont pas les bonnes intentions. Rappelez-vous ce que dit le Seigneur, là. L'esprit est bien disposé. Certes, mais la chair, c'est-à-dire notre nature humaine, qui est, comment dire, marquée de manière indélébile par le péché, notre nature charnelle, eh bien, elle est faible. Et elle nous porte facilement du côté, du mauvais côté. Alors, pour vaincre ces tendances naturelles, pour vaincre cette chair misérable, que faut-il faire? Jésus le dit, là. Veillez et priez. La vigilance et puis la prière. Je suis inquiet, voyez-vous, parce que je me demande combien de chrétiens, vraiment, vraiment, c'est une question que je me pose, prennent le soin d'avoir une communion personnelle avec leur Sauveur. Combien de chrétiens, journellement, prennent ne serait-ce que quelques instants pour se mettre devant Dieu, ainsi que Jésus l'a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Je suis convaincu, mes amis, que notre sécurité, nous en parlions il y a un instant, elle se trouve là. Elle se trouve là. Oh, je peux faire beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Je peux chanter, je peux prier, je peux exercer tel ou tel service en vue. Je peux, n'est-ce pas, avoir, comment dire, une fonction particulière, une place en vue dans l'Église. Mais, mes amis, ce qui compte, c'est ma relation personnelle avec le Seigneur. Et cette relation, je dois l'entretenir à ses pieds, à ses pieds. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez. C'est ne pas s'exposer à des situations où la tentation risque de nous subjuguer et de nous entraîner plus loin que nous aurions voulu aller. Et afin d'être en mesure d'exercer cette vigilance saine et sainte, eh bien, il faut prier. Une partie de notre temps doit être consacrée à la prière personnelle et à la méditation de la parole de Dieu. Je lis dans la Bible « Rachetez le temps ». Alors, ça semble étrange, cette parole « Rachetez le temps ». Mais je ne peux pas retenir le temps, moi. Hein? Les secondes, les minutes, les heures, les semaines, les mois, les années passent. La roue tourne et je ne peux pas arrêter le cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter le temps? Ça veut dire utiliser-le correctement. Voilà. Et quelque part, il est écrit dans la Bible, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Une occupation qui doit être la nôtre. Un peu de temps pour Dieu, une partie de notre temps consacrée à la prière personnelle et à la méditation de la parole de Dieu. Je lisais ces jours-ci dans un magazine que les jeux vidéo font fureur chez les Français, n'est-ce pas? Beaucoup, beaucoup de gens qui sont par ailleurs dans leur vie professionnelle hyperactifs consacrent du temps à jouer, voilà, sur leur ordinateur ou je ne sais trop quoi, n'est-ce pas? Eh bien, mes amis, si c'était le cas de quelques-uns, il faut savoir mettre ces babioles de côté et ouvrir à la place la parole de Dieu, se tenir devant le Seigneur. Quand même, c'est notre survie spirituelle qui nous compte. S'il y a un ciel à gagner, enfin gagner, à recevoir en partage, s'il y a un enfer à éviter, si ces choses-là, vous croyez qu'elles sont vraies, mes amis, de la part du Seigneur, je vous en supplie, tenez-vous devant. Prenez du temps avec le Seigneur. Vous en avez. J'en ai besoin. Tout le monde, nous en avons besoin. Ce que Pierre n'a pas su faire. Jésus a éprouvé le besoin pour faire face à l'heure sombre qui se profilait de se tenir dans la prière. Si c'était important, nécessaire, indispensable, vital pour lui. Pierre aurait dû comprendre que c'était aussi indispensable pour lui. Et nous devons comprendre que c'est aussi indispensable pour nous. Un autre élément qui l'a amené, n'est-ce pas, à la dégringolade, il y a des petits mots comme ça dans la Bible qui nous parlent. Quand on a arrêté Jésus et qu'on l'a conduit chez le souverain sacrificateur pour que le procès, enfin, parodie de procès ait lieu, le texte dit que Pierre suivait, vous avez remarqué? Comment il suivait? De loin. Il suivait, ouais, il suivait, mais de loin. Et parfois, chez certains chrétiens, la présence dans les rassemblements d'église est épisodique. Rare. Bien sûr, il y a des cas de force majeure. La maladie, le grand âge, la situation familiale, les obligations professionnelles. Mais en dehors de ces cas particuliers, je lis dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 41, que ceux qui avaient été baptisés, eh bien après cela, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyez, il y avait cette assiduité, il y avait ce plaisir que ces premiers chrétiens trouvaient à se réunir ensemble. Souvent, on trouve ce terme, ensemble, sous le regard de Dieu. Oui, nous avons besoin d'une communion personnelle avec le Seigneur. Mais nous avons besoin aussi d'une communion collective avec le Seigneur. Alors, de la part du Seigneur, peut-être je prêche dans le désert, mais enfin, Jean-Baptiste l'a fait, hein, je vous en supplie, autant que faire se peut. Eh bien, mes amis, prenez soin de vous associer à vos frères et sœurs lorsque, ensemble, nous nous retrouvons dans sa présence. Ils suivaient de loin. Un autre point encore. On a amené Jésus dans la cour du souverain sacrificateur et là, les serviteurs ont allumé un grand feu parce qu'il faisait froid. Et avez-vous remarqué, Pierre se chauffait à ce feu-là. Il se chauffait auprès du feu qu'avaient allumé les ennemis de Jésus. Il faisait, comment il faut dire ça, ami-ami avec eux. Il existe des feux que le monde pécheur allume. Le feu des plaisirs factices. Le feu des passions charnelles. Le feu du matérialisme outrancier. Le feu des amitiés malsaines. Le monde pécheur a allumé ces feux. Et j'ai remarqué que le feu a un pouvoir attractif. Vous voyez, lorsque nous nous occupions d'adolescents en centre de vacances, parfois, le soir, on faisait un feu de camp. Et quand il y avait un feu de camp, ça n'était pas nécessaire de rameuter les jeunes en disant « Allez, allez, venez !» Non, non, le feu attire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de particulier, vous voyez. Et le feu, il y a certains feux, nous en avons cité quelques-uns, que le feu allumé. Ne nous laissons pas attirés par ces choses-là. Soyons pas, vous savez, comme ces papillons, les soirs d'été qui tournent autour des lampes. Le feu, la lumière les attire et puis quand ils s'approchent trop près, ils se font griller et c'est fini. Et si nous nous approchons de ces feux-là que le monde a allumés, nous serons aussi grillés, nous serons consumés, nous serons détruits. L'Écriture dit « N'aimez pas le monde ». Et les choses qui sont dans le monde. Il est dit encore que celui qui veut être ami du monde, c'est-à-dire de l'état d'esprit qui règne, se rend ennemi de Dieu. Certes, Jésus côtoyait les pécheurs, oui, mais non pas pour s'associer à leurs désordres moraux, mais pour les arracher à leurs tristes conditions. Et finalement, donc, n'est-ce pas, étape par étape, on voit la dégringolade se préparer. Et finalement, il y eut ce triple reniement, la chute morale retentissante. Vous vous rendez compte, les dernières paroles que Jésus a entendues de la part de Pierre avant de mourir sur la croix a été celle-ci, « Je ne connais pas cet homme. » Alors que quelques heures auparavant, la main sur le cœur certainement, il lui avait juré fidélité en disant, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et voici que maintenant cette parole retentit. Je ne connais pas cet homme. Ça n'était pas ce que Pierre avait voulu, mais ses bonnes intentions initiales n'ont pas suffi. Sa chair, on en parlait tout à l'heure. La faiblesse de sa nature humaine l'a entraîné là où il n'aurait pas voulu aller. Sa sincérité au départ était certaine. Quand il disait « Je suis prêt à mourir avec toi », il était sincère, mais il n'était pas lucide, pas conscient de sa propre faiblesse. Et par frayeur, par lâcheté, eh bien, il s'est laissé emporter du mauvais côté à ce triple reniement. Alors, si nous en restions là, je serai désespérant. Désespérant. Et nous en connaissons des gens qui ont renié le Seigneur, oui ou non ? Qui sont bien partis dans la course chrétienne, mais qui ne sont plus parmi nous ce matin. Certains ont rejoint d'autres communautés évangéliques, que Dieu les bénisse. Mais pour d'autres, comme on dit vulgairement, ils sont dans la nature. Et s'ils en restent là, qu'en sera-t-il de leur âme ? Seigneur, garde-nous, garde-moi, pour que pareille chose ne se produise pas à notre égard. Si nous en restions là, je le répète, ce serait désespérant. Mais il y a une bonne nouvelle. Alléluia ! L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, vous le croyez ? La bonne nouvelle pour ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, mais pour ceux qui font déjà profession de lui appartenir. La bonne nouvelle est la suivante, c'est que même quand nous avons lamentablement chuté, Dieu, dans son amour, veut nous accorder une autre chance. Alléluia. Même quand nous avons lamentablement chuté, Dieu, dans son amour, veut nous accorder une autre chance. Amen. Dans mon texte, là, il y avait écrit qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu dit un grand Amen. Non, ça n'a pas l'air marché. Hein? À nous de la saisir, cette chance que Dieu veut nous accorder. Et si nous avons vu les étapes de la dégringolade, voyons un petit peu les éléments, les étapes qui ont permis le relèvement, le rétablissement, la réhabilitation spirituelle de Pierre. D'abord, il y a cette parole que Jésus avait prononcée. Vous vous souvenez, on l'a lu dans l'Évangile de Luc. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Ah, il ne va pas vous faire de cadeau, comme le froment. Mais Jésus ajoute, mais j'ai prié pour toi, alléluia, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, d'autres traductions disent, quand tu seras revenu, c'est toi qui affermiras tes frères. Vous voyez ? Voilà. Il avait prophétisé la chute, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Mais il avait prophétisé aussi le Seigneur Jésus, le relèvement. Et je pense que Pierre, au sein même de sa misère, pouvait ainsi se dire, à cause de ce que Jésus m'a dit, c'est possible que je m'en sorte. Et c'est possible que je remonte la pente. Pierre, j'ai prié pour toi. Entre parenthèses, prions pour ceux qui ont chuté. Vous le faites, faites-le encore. Pour ceux qui se sont détournés, il n'y a pas de notre part, il ne doit pas y avoir en tout cas de mépris, de rejet. Pas penser que ça n'est définitivement terminé pour eux, non. La première épître de Jean, chapitre 5, au verset 16, nous dit que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Lorsque vous sentez, parce que des fois, eh bien, on sent les choses, elles se profilent à l'horizon, que tel frère, telle sœur est en train de s'engager dans une mauvaise pente, une mauvaise direction, plutôt que de le critiquer, plutôt que de le mépriser. La parole de Dieu dit, priez pour lui. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Un échec aussi retentissant soit-il, n'est pas forcément définitif. Et puis le deuxième élément qui a permis le relèvement de l'apôtre Pierre, c'est le regard de Jésus. Un texte nous dit que quand le coq a chanté, Jésus s'est retourné et il a regardé Pierre. Essayez d'imaginer la scène. Je ne connais pas cet homme, dit Pierre. Le coq chante. Jésus se retourne. Ils sont là, à quelques mètres seulement. Il ne prononce pas un mot, mais il regarde Pierre. Vous savez qu'on peut faire passer beaucoup de choses dans un regard. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans le regard de Jésus ? D'abord, disons ce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de mépris. Il n'y avait pas de rejet. Il n'y avait pas d'exclusion. Non. Je crois que dans le regard de Jésus, il y avait certainement beaucoup de douleur. Jésus avait des sentiments. Vous savez, il y a parfois des gens qui pensent que Dieu est un être imperturbable, que rien ne l'émeut, rien ne le touche. Mais quand on lit la Bible, ce n'est pas comme ça. L'Écriture dit que dès les premiers temps de la création, quand l'homme eut péché et s'est enfoncé de plus en plus dans la voie du mal, que la terre était corrompue, remplie de violence, l'Éternel fut affligé dans son cœur. Vous voyez, Dieu éprouve des émotions. Il a des sentiments, il peut être réjoui ou attristé, affligé selon le comportement que nous avons à son égard. Et là, je pense qu'au travers de la parole de Pierre, je ne connais pas cet homme. Jésus a été blessé, meurtri, et cela s'est traduit dans son regard. Mais il n'y avait pas que ça dans ce regard. Il y avait certainement aussi beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Parce que même quand nous avons chuté, même quand nous avons fait peut-être les pires choses, Dieu continue de nous aimer. Il n'aime pas, il n'apprécie pas notre comportement, mais il continue à nous aimer. Et ce regard intense du Seigneur Jésus posé sur Pierre a percé son cœur, l'a convaincu de péché. Ah, on peut se sentir saisi par un tel regard grâce à l'action du Saint-Esprit, dont il est dit que le Saint-Esprit, il convainc de péché, de justice et du jugement. Certes, nous avons pu expérimenter cette conviction du péché lorsque nous nous sommes convertis. Lorsque peut-être pour la première fois nous sommes venus dans un lieu semblable à celui-ci, nous avons entendu la parole de Dieu, tout à coup, eh bien, nous nous sommes sentis misérables. Béni soit Dieu pour cette œuvre et nous sommes repentis, Dieu nous a fait grâce, il nous a sauvés. Mais même après, dans le cours de notre parcours de chrétien, il est bon, il est nécessaire que parfois, et peut-être même souvent, le Seigneur, par son esprit, puisse avoir accès à notre cœur et nous convaincre de péché. Vous est-il arrivé, en tant que chrétien, d'être convaincu de péché? C'est douloureux, mais c'est bénéfique. Et ce fut bénéfique pour l'apôtre Pierre. Il est dit qu'étant sorti, il pleura. Et quelque part, il y a une précision même. Il pleura amèrement. Voilà. Amèrement. Voyez. Certainement, je le vois là dans un coin contre un mur, s'humiliant. J'ai été misérable. Oh Seigneur, pardonne-moi. Quelle folie ai-je commis. Je t'avais juré fidélité. Voilà qu'à trois reprises, je t'ai renié. Oh, je n'ai pas su tenir compte de ton avertissement. Pardonne-moi, Seigneur. Il est brisé. Il est meurtri. Mais c'est un brisement bénéfique. Son orgueil avait besoin d'être cassé. Et mes amis, après ça, il n'a plus jamais été le même, Pierre. Oui. Il n'a plus jamais été le même. Ses larmes, eh bien, ont permis sa réhabilitation. Étant sorti, il pleura amèrement. Ce n'était pas des larmes de crocodile. Une repentance sincère. Une humiliation profonde. Une demande de pardon intense. Cela s'est toujours suivi des faits. On connaît ces versets, on les cite souvent, les prédicateurs, dans les réunions d'évangélisation. Mais ces versets que nous citons, que je vais citer encore, se trouvent dans une épître qui est adressée à des chrétiens. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Souvenez-vous, ça s'adresse, cette épître, à des chrétiens. Et ailleurs, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand il y a repentance sincère de la part d'un païen, d'un incrédule qui vient à la connaissance de Dieu, ou d'un chrétien qui a besoin de revenir vers le Seigneur, quand il y a repentance sincère, le pardon est toujours accordé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pourquoi le pardon est accordé? Eh bien, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 1er, nous dit ceci, « Petits enfants, ne péchez point. » Mais si quelqu'un a péché, précise l'apôtre, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Le pardon, eh bien, il se trouve dans l'œuvre de Christ, dans le sacrifice accompli sur la croix du calvaire, qui est d'une efficacité absolue pour nous faire grâce encore Et encore, as-tu besoin de ce pardon ce matin? Il est à la disposition de chacun, parce que le sang de Jésus a coulé à la croix du calvaire. Gloire à Dieu. Alors voilà, ils se sont revus après Pierre et Jésus, Jésus et Pierre. Après la résurrection, il y a cette histoire de pêche miraculeuse. Ils sont allés faire un tour en mer, ils reviennent au petit matin, bredouilles. Enfin, n'avez-vous rien à manger? Non, ça n'a pas marché, n'a rien pris. Jetez le filet du côté droit, vous trouverez. Alors, ils l'ont fait. Et puis, la prise a été impressionnante. Alors, il y en a un qui a réagi dans la barque. L'apôtre Jean a dit, hey, ça me rappelle quelque chose. Déjà, quand on était avec lui là-bas en Galilée, eh bien, vous vous souvenez, la pêche miraculeuse, c'est la même chose, c'est le même coup qui nous refait. C'est le Seigneur! Et Pierre, il a fait quelque chose d'étonnant. Il était nu, enfin nu. Certainement, il s'était ébouillé de son vêtement du dessus. C'était la nuit, hein, alors tous les chats sont gris la nuit. Hein. Il s'est revêtu par décence, vous voyez quand même, et il s'est jeté à l'eau. C'est bizarre ça. Parce qu'il voulait, être le premier à rejoindre Jésus. Ce matin, peut-être il faut se jeter à l'eau pour certains. Même si tu es honteux, jette-toi à l'eau. Parfois, il faut savoir se mouiller, s'impliquer, réagir de la bonne manière. Ouais. On entend des prédications. Dimanche après dimanche. Il y a des moments, vous voyez, enfin j'espère que c'est comme ça, où Dieu parle d'une manière plus particulière à notre cœur. Ça ne vous est jamais arrivé, ça? C'est comme si le doigt de Dieu se pointe sur toi et te dit, ça c'est pour toi mon gars, ou pour toi ma fille. C'est ce que tu as besoin d'entendre, ça te concerne. Alors, si tu viens à Jésus, si tu te mouilles, si tu te jettes à l'eau, il ne te repoussera pas. Quand Pierre a été devant Jésus, Jésus lui a dit, allez va, arrête, je ne veux pas te voir, tu m'as trahi. Non, pas du tout. Quelle délicatesse chez le Seigneur. D'abord, il a préparé le petit déjeuner. Vous vous rendez compte? Moi, il me semble, enfin c'est un peu si pire ce que je dis, si j'avais été à la place de Jésus, je n'aurais pas fait comme ça. On dit, Pierre, avant de passer à table, on a une affaire à régler tous les deux. Hein. Viens dans un coin, va s'expliquer. Mais pas Jésus. D'abord le petit déjeuner. Et puis après, cette question. Pierre, m'aimes-tu? Alors Pierre, vous l'auriez fait, je l'aurais fait. Ben, quelle question! Bien sûr que je t'aime! Et Jésus remet ça une deuxième fois, comme s'il n'avait pas entendu. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui, Seigneur, je t'aime. Pour la troisième fois, trois reniements, trois fois la même question. Alors ça fait tilt là, hein? Ça lui a rafraîchi la mémoire et il a dit qu'il fut attristé. Et cette fois, non pas à la va-vite, non pas comme ça l'emporte-pièce, mais en pesant ses mots. Pierre a répondu, tu sais toute chose. Ah, toute chose. Tu sais combien j'ai été misérable et en dessous de tout. Tu sais tout ça. Bien, tu sais aussi que je t'aime. Et alors, la réhabilitation, la restauration, le rétablissement se produit. Eh bien, fais paître mes brebis. Suis-moi. Et Jésus ajoute, toi, Pierre, toi, le renégat, auquel je fais grâce, que je pardonne et que je veux remettre en piste, toi, suis-moi. Et Pierre a suivi Jésus, amen, jusqu'au bout, jusqu'au martyr, puisque c'est de cela dont il est question dans ce texte, n'est-ce pas, hein? Et avant de connaître le martyr, vous le savez, Pierre a exercé un puissant ministère d'apôtre de Christ. Acte 2, c'est lui qui prêche l'évangile, jour de la Pentecôte, 3000 se convertissent. Acte 8, il va chez les Samaritains, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Acte 10, l'évangile est annoncé aux païens, chez Corneille, le centurion romain. Voilà, la page est tournée. Dieu a fait grâce, il est devenu un homme nouveau. Ce matin, on peut vivre une aventure semblable. J'ai dit tout à l'heure que le Seigneur est prêt dans son amour à nous accorder une nouvelle chance. Peut-être au milieu de nous, quelqu'un a besoin d'une nouvelle chance. Peut-être secrètement, personne ne sait, personne ne soupçonne. Quand on te dit « ça va frère, ça va sœur, oh super !» Seigneur, vois dans ton cœur et vois dans le mien. Alors ce matin, bats les masques. Seigneur, je suis devant toi. J'ai besoin, comment dire, comme de repartir à zéro. Comme de recommencer pour la première fois. Seigneur, j'ai peut-être pas commis un péché grossier particulier, mais c'est plus comme c'était auparavant. Il n'y a plus ce punch, ce peps, cet entrain, cette joie, cet enthousiasme, ce plaisir que je trouvais en toi et dans ta cause. Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau départ. J'ai besoin d'un renouveau. J'ai besoin que tu m'accordes une nouvelle chance. Ce matin, devant le repas du Seigneur, nous allons nous placer. On ne va pas relire les textes, on les connaît par cœur. On sait que, n'est-ce pas, à la veille de sa mort, Jésus a pris du pain. Ceci est mon corps rompu pour vous. Il a pris du vin. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la rémission des péchés. C'est cette célébration, cette commémoration à laquelle nous allons procéder, qui nous rappelle l'œuvre de Christ sur la croix, son corps brisé par la souffrance, son sang versé pour nos péchés. Au travers de ce pain, de ce vin, nous pouvons dire, Seigneur, je veux saisir une nouvelle chance. Je veux connaître un nouveau départ. Je veux connaître un renouveau de grâce. J'en ai marre de ma vie chrétienne boiteuse. J'en ai assez de cette routine insipide. Je veux vivre avec toi quelque chose de frais, quelque chose de bon. Je veux être renouvelé. Il y a peut-être des affaires que je n'ai pas réglées. Il y a des choses que j'ai enfouies au fond de mon cœur. J'ai fait taire ma conscience. Et c'est cela qui m'empêche d'être libre, de te louer, de t'adorer. Il y a quelque chose entre toi et moi. Non pas que tu m'en veuilles, mais voilà, ton Esprit Saint est attristé. Alors, j'ai du mal à trouver la communion, la relation avec ta personne. Seigneur, une nouvelle chance. Purifie mon cœur. Pardonne-moi et fais-moi repartir d'un bon pied. Réhabilite-moi. Ça peut être nécessaire, ça, vous savez. Et ça peut être nécessaire plusieurs fois au cours de notre vie de connaître avec le Seigneur un nouveau départ. Nous sommes des êtres humains tellement faillibles. La chair est faible. La chair est faible. Nous avons besoin de venir vers le Seigneur. Je veux recommencer avec toi. Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime, alors fais-moi grâce. Vous savez que le Seigneur veut faire grâce ce matin? Vous n'avez pas envie de vivre quelque chose de plus? Quelque chose de plus solide au niveau de la relation, de la communion avec Dieu, de l'intensité, de ce contact avec le Seigneur. C'est tellement bon quand le Seigneur s'approche de nous. Nous avons, beaucoup d'entre nous, le souvenir de ces expériences bénies où un certain jour, oh, on a vécu quelque chose de grand, de glorieux. Mais c'est du passé. C'est un souvenir. Eh bien, Seigneur, je ne veux pas que ce soit un souvenir, un monument. Je veux être en marche. Je veux être dans le mouvement et pas dans le monument. Fais-moi grâce. Accorde-moi une nouvelle chance. Je ne veux pas d'une vie chrétienne misérable, religieuse, qui se contente des formes extérieures de piété. Voilà, je viens au culte dominical, je prends mon petit bout de pain, ma petite coupelle, et puis je repars à la maison. Non, je veux vivre quelque chose avec toi, Seigneur. Je veux vivre ça. Vous voulez ça? Que vous voulez ça? Alors vous dites, ça va bien comme ça. Hop, ne m'en demandez pas plus. Jusque-là et pas plus loin. Alors arrangez-vous avec le Seigneur. Ceux qui disent, Seigneur, accorde-moi une autre chance, eh bien Dieu va leur faire grâce. Prenez Dieu au mot. Prenez des décisions ce matin. Mouillez-vous pour le Seigneur. Jetez-vous à l'eau en quelque sorte. Et dites, Seigneur, je viens. Je reviens à toi comme je suis pleinement. Et Dieu va faire miséricorde. On prie quelques instants. Alléluia.